4. Madame de Staël, suite du récit de Benjamin Constant. Madame Récamier contracta, avec une femme bien autrement illustre que Monsieur de la Harpe n'était célèbre, une amitié qui devint chaque jour plus intime et qui dure encore. Monsieur Necker ayant été rayé de la liste des émigrés, chargea Madame de Staël, sa fille, de vendre une maison qu'il avait à Paris. Monsieur Récamier l'acheta, et ce fut une occasion naturelle pour Madame Récamier de voir Madame de Staël. La vue de cette femme célèbre la remplit d'abord d'une excessive timidité. La figure de Madame de Staël a été fort discutée, mais un superbe regard, un sourire doux, une expression habituelle de bienveillance, l'absence de toute affectation minutieuse et de toute réserve gênante, des mots flatteurs, des louanges un peu directes, mais qui semblent échapper à l'enthousiasme, une variété inépuisable de conversation, étonne, attire et lui concilie presque tous ceux qui l'approchent. Je ne connais aucune femme, et même aucun homme, qui soit plus convaincu de son immense supériorité sur tout le monde et qui fasse moins peser cette conviction sur les autres. Rien n'était plus attachant que les entretiens de Madame de Staël et de Madame Récamier. La rapidité de l'une à exprimer 1000 pensées neuves, la rapidité de la seconde à les saisir et à les juger. Cet esprit mâle et fort qui dévoilait tout, et cet esprit délicat et fin qui comprenait tout. Ces révélations d'un génie exercé, communiquées à une jeune intelligence digne de les recevoir. Tout cela formait une réunion qu'il est impossible de peindre, sans avoir eu le bonheur d'en être témoin soi-même. L'amitié de Madame Récamier pour Madame de Staël se fortifia d'un sentiment qu'elles éprouvaient toutes deux, l'amour filial. Madame Récamier était tendrement attachée à sa mère, femme d'un rare mérite, dont la santé donnait déjà des craintes, et que sa fille ne cesse de regretter depuis qu'elle l'a perdue. Madame de Staël avait voué à son père un culte que la mort n'a fait que rendre plus exalté. Toujours entraînante par la manière de s'exprimer, elle le devient surtout encore quand elle parle de lui. Sa voix émue, ses yeux prêts à se mouiller de larmes, la sincérité de son enthousiasme touchaient l'âme de ceux même qui ne partageaient pas son opinion sur cet homme célèbre. On a fréquemment jeté du ridicule sur les éloges qu'elle lui a donnés dans ses écrits. Mais quand on l'a entendu sur ce sujet, il est impossible d'en faire un objet de moquerie, parce que rien de ce qui est vrai n'est ridicule. Fin des guillemets. Les lettres de Corinne à son amie Madame Récamier commencèrent à l'époque rappelées ici par Benjamin Constant. Elles ont un charme qui tient presque de l'amour. J'en ferai connaître quelques-unes. Lettre de Madame de Staël à Madame Récamier. Copée, 9 septembre. Vous souvenez-vous, belle Juliette, d'une personne que vous avez comblée de marques d'intérêt cet hiver, et qui se flatte de vous engager à redoubler l'hiver prochain? Comment gouvernez-vous l'empire de la beauté? On vous l'accorde avec plaisir, cet empire, parce que vous êtes éminemment bonne, et qu'il semble naturel qu'une âme si douce ait un charmant visage pour l'exprimer. De tous vos adorateurs, vous savez que je préfère Adrien de Montmorency. J'ai reçu de ces lettres, remarquables par l'esprit et la grâce, et je crois à la solidité de ses affections malgré le charme de ses manières. Au reste, ce mot de solidité convient à moi qui ne prétend qu'à un rôle bien secondaire dans son cœur. Mais vous qui êtes l'héroïne de tous les sentiments, vous êtes exposée aux grands événements dont on fait les tragédies et les romans. Le mien s'avance au pied des Alpes. J'espère que vous le lirez avec intérêt. Je me plais à cette occupation. En parlant de vos adorateurs, je ne parlais pas de Monsieur de Narbonne. Il me semble qu'il s'est rangé parmi les amis. S'il n'en était pas ainsi, je n'aurais pu dire que je lui préférais personne. Au milieu de tous ces succès, ce que vous êtes et ce que vous resterez, c'est un ange de pureté et de beauté. Et vous aurez le culte des dévots comme celui des mondains. Avez-vous revu l'auteur d'Atala? Êtes-vous toujours à Clichy? Enfin, je vous demande des détails sur vous. J'aime à savoir ce que vous faites, à me représenter les lieux que vous habitez. Tout n'est-il pas tableau dans les souvenirs que l'on garde de vous ? Je joins à cet enthousiasme si naturel pour vos rares avantages, beaucoup d'attrait pour votre société. Acceptez, je vous prie, avec bienveillance tout ce que je vous offre, et promettez-moi que nous nous verrons souvent l'hiver prochain. Copé, 30 avril. Savez-vous que mes amis, belle Juliette, m'ont un peu flatté de l'idée que vous viendriez ici ? Ne pourriez-vous pas me donner ce grand plaisir ? Le bonheur ne m'a pas gâté depuis quelque temps, et ce serait un retour de fortune que votre arrivée qui me donnerait de l'espoir pour tout ce que je désire. Adrien et Mathieu disent qu'ils viendront. Si vous veniez avec eux, un mois de séjour ici suffirait pour vous montrer notre éclatante nature. Mon père dit que vous devriez choisir Copé pour domicile, et que de là nous ferions nos courses. Mon père est très vif dans le désir de vous voir. Vous savez ce qu'on a dit d'Homère, par la voix des vieillards, tu louas la beauté. Et indépendamment de cette beauté, vous êtes charmante. 5. Voyage de Madame Récamier en Angleterre. Pendant la courte paix d'Amiens, Madame Récamier fit avec sa mère un voyage à Londres. Elle eut des lettres de recommandation du vieux duc de Guignes, ambassadeur en Angleterre 30 ans auparavant. Il avait conservé des correspondances avec les femmes les plus brillantes de son temps, la duchesse de Devonshire, Lady Melbourne, la marquise de Salisbury, la margrave d'Anspach, dont il avait été amoureux. Son ambassade était encore célèbre, son souvenir tout vivant chez ses respectables dames. Telle est la puissance de la nouveauté en Angleterre, que le lendemain les gazettes furent remplies de l'arrivée de la beauté étrangère. Madame Récamier reçut les visites de toutes les personnes à qui elle avait envoyé ses lettres. Parmi ces personnes, la plus remarquable était la duchesse de Devonshire, âgée de 45 à 50 ans. Elle était encore à la mode et belle, quoique privée d'un œil qu'elle couvrait d'une boucle de cheveux. La première fois que Madame Récamier parut en public, ce fut avec elle. La duchesse la conduisit à l'opéra, dans sa loge, où se trouvaient le prince de Galles, le duc d'Orléans et ses frères, le duc de Montpensier et le comte de Beaujolais. Les deux premiers devaient devenir rois. L'un touchait au trône, l'autre en était encore séparé par un abîme. Les lorgnettes et les regards se tournèrent vers la loge de la duchesse. Le prince de Galles dit à Madame Récamier que si elle ne voulait être étouffée, il fallait sortir avant la fin du spectacle. À peine fut-elle debout que les portes des loges s'ouvrirent précipitamment. Elle n'évita rien et fut portée par le flot de la foule jusqu'à sa voiture. Le lendemain, Madame Récamier alla au parc de Kensington, accompagnée du marquis de Douglas, duc d'Hamilton, qui, depuis, a reçu Charles X à Holyrood, et de sa sœur la duchesse de Somerset. La foule se précipitait sur les pas de l'étrangère. Cet effet se renouvela toutes les fois qu'elle se montra en public. Les journaux retentissaient de son nom et son portrait, gravé par Bartolozzi, fut répandu dans toute l'Angleterre. L'auteur d'Antigone, M. Ballanche, ajoute que des vaisseaux le portèrent jusque dans les îles de la Grèce. La beauté retournait au lieu où l'on avait inventé son image. On a de Madame Récamier une esquisse par David, un portrait en pied par Gérard, un buste par Canova. Le portrait est le chef-d'œuvre de Gérard. Il est ravissant, mais il ne me plaît pas parce que j'y reconnais les traits, sans reconnaître l'expression du modèle. La veille du départ de Madame Récamier, le prince de Galles et la duchesse de Devonshire lui demandèrent de les recevoir et d'amener chez elle quelques personnes de leur société. Les demandes s'étant multipliées, la réunion fut nombreuse. On fit de la musique, Madame Récamier joua avec le chevalier marin, premier harpiste de cette époque, des variations sur un thème de Mozart qui lui était dédié. Les feuilles anglaises furent remplies des détails de cette soirée. Elles remarquèrent l'enthousiasme si gracieux et si animé du prince de Galles et son empressement sans partage auprès de la belle étrangère. Le lendemain, elle s'embarqua pour La Haye, et mit 3 jours à faire une traversée de 16 heures. Elle m'a raconté que pendant ces jours mêlés de tempêtes, elle lut le génie du christianisme. Je lui fus révélé, selon sa bienveillante expression. Je reconnais là cette bonté que les vents et la mer ont toujours eue pour moi. Près de la haie, elle visita le château du prince d'Orange, ce prince lui ayant fait promettre d'aller voir cette demeure. Il lui écrivit plusieurs lettres, dans lesquelles il parle de ses revers et de l'espoir de les vaincre. Guillaume IV est en effet devenu monarque. En ce temps-là, on intriguait pour être roi, comme aujourd'hui pour être député, et ses candidats à la souveraineté se pressaient aux pieds de Madame Récamier, comme si elle disposait des couronnes. Ce billet de Bernadotte, qui règne aujourd'hui sur la Suède, termina le voyage de Madame Récamier en Angleterre. Les journaux anglais, en calmant mes inquiétudes sur votre santé, m'ont appris les dangers auxquels vous aviez été exposé. J'ai blâmé d'abord le peuple de Londres dans son trop grand empressement, mais je vous l'avoue, il a été bientôt excusé, car je suis partie intéressée lorsqu'il faut justifier les personnes qui se rendent indiscrètes pour admirer les charmes de votre céleste figure. Au milieu de l'éclat qui vous environne et que vous méritez à tant de titres, daignez-vous souvenir quelquefois que l'être qui vous est le plus dévoué dans la nature est Bernadotte. 6. Premier voyage de Madame de Staël en Allemagne, Madame Récamier à Paris. Madame de Staël, menacée de l'exil, tenta de s'établir à Maffliers, campagne à 10 lieues de Paris. Elle accepta la proposition que lui fit Madame Récamier, revenue d'Angleterre, de passer quelques jours à Saint-Brice avec elle. Ensuite, elle retourna dans son premier asile. Elle rend compte de ce qui lui arriva alors dans « Les 10 années d'exil ». Guillemet. « J'étais à table, dit-elle, avec 3 de mes amis, dans une salle où l'on voyait le grand chemin et la porte d'entrée. C'était à la fin de septembre, à 4 heures. Un homme en habit gris, à cheval, s'arrête et sonne. Je fus certaine de mon sort. Il me fit demander, je le reçus dans le jardin. En avançant vers lui, le parfum des fleurs et la beauté du soleil me frappèrent. Les sensations qui nous viennent par les combinaisons de la société sont si différentes de celles de la nature. Cet homme me dit qu'il était le commandant de la gendarmerie de Versailles. Il me montra une lettre signée de Bonaparte qui portait l'ordre de m'éloigner à 40 lieues de Paris et enjoignait de me faire partir dans les 24 heures, en me traitant cependant avec tous les égards dus à une femme d'un nom connu. Je répondis à l'officier de gendarmerie que partir dans les 24 heures convenait à des conscrits, mais non pas à une femme et à des enfants. En conséquence, je lui proposai de m'accompagner à Paris, où j'avais besoin de 3 jours pour faire les arrangements nécessaires à mon voyage. Je montai donc dans ma voiture avec mes enfants et cet officier qu'on avait choisi comme le plus littéraire des gendarmes. En effet, il me fit des compliments sur mes écrits. « Vous voyez, lui dis-je, monsieur, où cela mène d'être une femme d'esprit. Déconseillez-le, je vous prie, aux personnes de votre famille, si vous en avez l'occasion. » J'essayais de me monter par la fierté, mais je sentais la griffe dans mon cœur. Je m'arrêtai quelques instants chez Madame Récamier. Je trouvai le général Junot qui, par dévouement pour elle, promit d'aller le lendemain parler au premier consul. Il le fit, en effet, avec la plus grande chaleur. La veille du jour qui m'était accordé, Joseph Bonaparte fit encore une tentative. Je fus obligé d'attendre la réponse dans une auberge à 2 lieues de Paris, n'osant pas rentrer chez moi dans la ville. Un jour se passa sans que cette réponse me parvînt. Ne voulant pas attirer l'attention sur moi en restant plus longtemps dans l'auberge où j'étais, je fis le tour des murs de Paris pour en aller chercher une autre, de même à 2 lieues de Paris, mais sur une route différente. Cette vie errante à 4 pas de mes amis et de ma demeure me causait une douleur que je ne puis me rappeler sans frissonner. » Fin des guillemets. Madame de Staël au lieu de retourner à Copé, partit pour son premier voyage d'Allemagne. À cette époque, elle m'écrivit, sur la mort de Madame de Beaumont, la lettre que j'ai citée dans mon premier voyage de Rome. Madame Récamier réunissait chez elle, à Paris, ce qu'il y avait de plus distingué dans les partis opprimés et dans les opinions qui n'avaient pas tout cédé à la victoire. On y voyait les illustrations de l'ancienne monarchie et du nouvel empire. Les Montmorency, les Lafayette, les Sabrans, les Lamoignon, les Noailles, les généraux Masséna, Junot, Moreau et Bernadotte. Celui-là destiné à l'exil, celui-ci au trône. Les étrangers illustres, le prince d'Orange et le prince de Bavière, le frère de la reine de Prusse, l'environnaient, comme à Londres le prince de Galles était fier de porter son châle. L'attrait était si irrésistible que Jeanne Beauharnais, Murat et les ministres même de l'empereur allaient à ses réunions. Bonaparte ne pouvait souffrir le succès, même celui d'une femme, lorsqu'il ne relevait pas de lui. Il disait « Depuis quand le conseil se tient-il chez Madame Récamier ?» 7. Projet des généraux, portrait de Bernadotte, procès de Moreau, lettre de Moreau et de Masséna à Madame Récamier. Je reviens maintenant au récit de Benjamin Constant. Guillemets. Depuis longtemps, Bonaparte, qui s'était emparé du gouvernement, marchait ouvertement à la tyrannie. Les partis les plus opposés s'aigrissaient contre lui, et tandis que la masse des citoyens se laissait énerver encore par le repos qu'on lui promettait, les républicains et les royalistes désiraient un renversement. M. de Montmorency appartenait à ces derniers par sa naissance, ses rapports et ses opinions. Madame Récamier ne tenait à la politique que par son intérêt généreux pour les vaincus de tous les partis. L'indépendance de son caractère l'éloignait de la cour de Napoléon dont elle avait refusé de faire partie. M. de Montmorency imagina de lui confier ses espérances, lui peignit le rétablissement des Bourbons sous des couleurs propres à exciter son enthousiasme, et la chargea de rapprocher deux hommes importants alors en France, Bernadotte et Moreau, pour voir s'ils pouvaient se réunir contre Bonaparte. Elle connaissait beaucoup Bernadotte, qui depuis est devenu prince royal de Suède. Quelque chose de chevaleresque dans la figure, de noble dans ses manières, de très fin dans l'esprit, de déclamatoire dans la conversation, en font un homme remarquable. Courageux dans les combats, hardi dans le propos, mais timide dans les actions qui ne sont pas militaires, irrésolu dans tous ses projets, une chose qui le rend très séduisant à la première vue, mais qui en même temps met un obstacle à toute combinaison de plans avec lui. C'est une habitude de haranguer, reste de son éducation révolutionnaire qui ne le quitte pas. Il a parfois des mouvements d'une véritable éloquence. Il le sait, il aime ce genre de succès, et quand il est entré dans le développement de quelque idée générale, tenant à ce qu'il a entendu dans les clubs ou à la tribune, il perd de vue tout ce qui l'occupe et n'est plus qu'un orateur passionné. Tel il apparut en France dans les premières années du règne de Bonaparte, qu'il a toujours haï et auquel il a toujours été suspect, et tel il s'est encore montré dans ces derniers temps, au milieu du bouleversement de l'Europe, dont on lui doit toujours l'affranchissement, parce qu'il a rassuré les étrangers en leur montrant un Français prêt à marcher contre le tyran de la France et sachant ne dire que ce qui pouvait influer sur sa nation. Tout ce qui offre à une femme le moyen d'exercer sa puissance lui est agréable. Il y avait d'ailleurs dans l'idée de soulever contre le despotisme de Bonaparte des hommes importants par leurs dignités et leur gloire, quelque chose de généreux et de noble qui devait tenter Madame Récamier. Elle se prêta donc au désir de Monsieur de Montmorency. Elle réunit souvent Bernadotte et Moreau chez elle. Moreau hésitait, Bernadotte déclamait. Madame Récamier prenait les discours indécis de Moreau pour un commencement de résolution, et les harangues de Bernadotte comme un signal de renversement de la tyrannie. Les deux généraux, de leur côté, étaient enchantés de voir leur mécontentement, caressé par tant de beauté, d'esprit et de grâce. Il y avait en effet quelque chose de romanesque et de poétique dans cette femme si jeune, si séduisante, leur parlant de la liberté de leur patrie. Bernadotte répétait sans cesse que Madame Récamier était faite pour électriser le monde et pour créer des séides. Fin des guillemets. En remarquant la finesse de cette peinture de Benjamin Constant, il faut dire que Madame Récamier ne serait jamais entrée dans ses intérêts politiques sans l'irritation qu'elle ressentait de l'exil de Madame de Staël. Le futur roi de Suède avait la liste des généraux qui tenaient encore au parti de l'indépendance. Mais le nom de Moreau n'y était pas. C'était le seul qu'on pût opposer à celui de Napoléon. Seulement Bernadotte ignorait quel était ce Bonaparte dont il attaquait la puissance. Madame Moreau donna un bal. Toute l'Europe s'y trouva, excepté la France. Elle n'y était représentée que par l'opposition républicaine. Pendant cette fête, le général Bernadotte conduisit Madame Récamier dans un petit salon où le bruit de la musique seul les suivit et leur rappelait où ils étaient. Moreau passa dans ce salon. Bernadotte lui dit, après de longues explications, « Avec un nom populaire, le seul parmi nous qui puisse se présenter appuyé de tout un peuple, voyez ce que vous pouvez, ce que nous pouvons guider par vous. » Moreau répéta ce qu'il avait dit souvent, qu'il sentait le danger dont la liberté était menacée, qu'il fallait surveiller Bonaparte, mais qu'il craignait une guerre civile. Cette conversation se prolongeait et s'animait. Bernadotte s'emporta et dit au général Moreau « Vous n'osez pas prendre la cause de la liberté. Eh bien, Bonaparte se jouera de la liberté et de vous. Elle périra malgré nos efforts. Et vous, vous serez enveloppé dans sa ruine sans avoir combattu. » Parole prophétique. La mère de Madame Récamier était liée avec Madame Hulot, mère de Madame Moreau. Et Madame Récamier avait contracté avec cette dernière une de ces liaisons d'enfance qu'on est heureux de continuer dans le monde. Pendant le procès du général, Madame Récamier passait sa vie chez Madame Moreau. Celle-ci dit à son amie que son mari se plaignait de ne l'avoir point encore vue parmi le public qui remplissait la salle et le tribunal. Madame Récamier s'arrangea pour assister le lendemain de cette conversation à la séance. Un juge, M. Brillat Savarin, se chargea de la faire entrer par une porte particulière qui s'ouvrait sur l'amphithéâtre. En entrant, elle leva son voile et parcourut d'un coup d'œil les rangs des accusés afin d'y trouver Moreau. Il la reconnut, se leva et la salua. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se hâta de descendre les degrés de l'amphithéâtre pour arriver à la place qui lui était destinée. Les accusés étaient au nombre de 47. Ils remplissaient les gradins placés en face des juges du tribunal. Chaque accusé était placé entre deux gendarmes. Ces soldats montraient au général Moreau de la déférence et du respect. On remarquait messieurs de Polignac et de Rivière, mais surtout Georges Cadoudal. Pichegru, dont le nom restera lié à celui de Moreau, manquait pourtant à côté de lui. Ou plutôt, on y croyait voir son ombre, car on savait qu'il manquait aussi dans la prison. Il n'était plus question de républicains. C'était la fidélité royaliste, excepté Moreau, qui luttait contre le pouvoir nouveau. Toutefois, cette cause de la légitimité et de ses partisans nobles avait pour chef un homme du peuple, Georges Cadoudal. On le voyait là, avec la pensée que cette tête si pieuse, si intrépide, allait tomber sur l'échafaud. Que lui seul, peut-être, Cadoudal, ne serait pas sauvé, car il ne ferait rien pour l'être. Il ne défendait que ses amis. Quant à ce qui le regardait particulièrement, il disait tout. Bonaparte ne fut pas aussi généreux qu'on le suppose. 11 personnes dévouées à Georges périrent avec lui. Moreau ne parla point. La séance terminée, le juge qui avait amené Madame Récamier vint la reprendre. Elle traversa le parquet du côté opposé à celui par lequel elle était entrée et longea le banc des accusés. Moreau descendit, suivi de ses deux gendarmes. Il n'était séparé d'elle que par une balustrade. Il lui dit quelques paroles que, dans son saisissement, elle entendit à peine. En lui répondant, sa voix se brisa. Aujourd'hui que les temps sont changés et que le nom de Bonaparte semble seul les remplir, on n'imagine pas à combien peu encore paraissait tenir sa puissance. La nuit qui précéda la sentence, et pendant laquelle le tribunal siégea, tout Paris fut sur pied. Des flots de peuple se portaient au palais de justice. Georges ne voulut point de grâce. Il répondit à ceux qui voulaient la demander, « Me promettez-vous une plus belle occasion de mourir ?» Moreau, condamné à la déportation, se mit en route pour Cadix, d'où il devait passer en Amérique. Madame Moreau alla le rejoindre. Madame Récamier était auprès d'elle au moment de son départ. Elle la vit embrasser son fils dans son berceau et la vit revenir sur ses pas pour l'embrasser encore. Elle la conduisit à sa voiture et reçut son dernier adieu. Le général Moreau écrivit de Cadix cette lettre à sa généreuse amie. Chiclana, près Cadix, le 12 octobre 1804. Madame, vous apprendrez sans doute, avec quelque plaisir, des nouvelles de deux fugitifs, auxquels vous avez témoigné tant d'intérêt. Après avoir essuyé des fatigues de tout genre, sur terre et sur mer, nous espérions nous reposer à Cadix, quand la fièvre jaune, qu'on peut en quelque sorte comparer aux maux que nous venions d'éprouver, est venue nous assiéger dans cette ville. Quoique les couches de mon épouse nous aient forcé d'y rester plus d'un mois pendant la maladie, nous avons été assez heureux pour nous préserver de la contagion. Un seul de nos gens en a été atteint. Enfin, nous sommes à Chiclane, très joli village à quelques lieues de Cadix, jouissant d'une bonne santé, et mon épouse en pleine convalescence après m'avoir donné une fille très bien portante. Persuadée que vous prendrez autant d'intérêt à cet événement qu'à tout ce qui nous est arrivé, elle me charge de vous en faire part et de la rappeler à votre souvenir. Je ne vous parle pas du genre de vie que nous menons, il est excessivement ennuyeux et monotone, mais au moins nous respirons en liberté, quoique dans le pays de l'Inquisition. Je vous prie, madame, de recevoir l'assurance de mon respectueux attachement et de me croire pour toujours votre très humble et très obéissant serviteur, Moreau. Cette lettre est datée de Chiclane, lieu qui sembla promettre avec de la gloire un règne assuré à Monseigneur le duc d'Angoulême, et pourtant il n'a fait que paraître sur ce bord aussi fatalement que Moreau, qu'on a cru dévoué aux Bourbons. Moreau, au fond de l'âme, était dévoué à la liberté. Lorsqu'il eut le malheur de se joindre à la coalition, il s'agissait uniquement à ses yeux de combattre le despotisme de Bonaparte. Louis XVIII disait à M. de Montmorency, qui déplorait la mort de Moreau comme une grande perte pour la couronne, « Pas si grande, Moreau était républicain. » Ce général ne repassa en Europe que pour trouver le boulet sur lequel son nom avait été gravé par le doigt de Dieu. Moreau me rappelle un autre illustre capitaine, Masséna. Celui-ci allait à l'armée d'Italie. Il demanda à Madame Récamier un ruban blanc de sa parure. Un jour, elle reçut ce billet de la main de Masséna. Le charmant ruban donné par Madame Récamier a été porté par le général Masséna aux batailles et aux blocus de Gênes. Il n'a jamais quitté le général et lui a constamment favorisé la victoire. Les antiques mœurs percent à travers les mœurs nouvelles dont elles font la base. La galanterie du chevalier noble se retrouvait dans le soldat plébéien. Le souvenir des tournois et des croisades était caché dans ces faits d'armes, par qui la France moderne a couronné ses vieilles victoires. Sichère, compagnon de Charlemagne, ne se parait point au combat des couleurs de sa dame. Il portait, dit le moine de Saint-Gall, 7, 8, et même 9 ennemis, enfilés à sa lance comme des grenouillettes. Sichère précédait, et Masséna suivait la chevalerie.
Thank you.